Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. On est très heureux d'être avec vous le week-end, en ce dimanche matin, toujours avec Marie Martineau, Cyril Linette, Jérôme Pinault, Simon Dutin, mais qui voit réellement la Ligue 1. On se posera la question, ce manque de visibilité, est-ce que ça va tuer notre championnat? Nous allons en débattre dans quelques instants. À 11h30, c'est à lui de changer, pas à moi. Lando Norris charge Max Verstappen après son comportement lors du Grand Prix du Mexique. Justement, son comportement à Max Verstappen est-il digne d'un champion du monde? Et puis 11h45, on bouleverse un petit peu les habitudes. Le débat caché, je n'allais pas le supprimer aujourd'hui, il était hors de question. Un débat caché assez difficile à trouver, mais je sais que vous êtes assez fort, mais GG. D'après vous, c'est quoi le débat caché, Marie Martineau?
Eh bien, je me dis, comme on a parlé d'Oscar Jégou hier, peut-être que tu veux revenir là-dessus. Il a été ovationné au stade Marcel de Flandre hier après avoir marqué un essai. Donc, j'aurais bien imaginé un sonore avec le public en folie.
Tu parles même de la production.
Ouais,
de comment je pourrais l'amener.
Ouais, et un débat brillant autour de est-ce que finalement c'était le bon choix pour le stade Rochelet.
Ok, brillant. Merci beaucoup.
C'était mon idée aussi. Hein. Je pensais que, comme Marie, j'avais pensé à ça.
Bah, ouais. Vous êtes sur la même ligne, parfois.
Mais vous avez tort.
Je n'ai rien dit. D'accord. C'est une très bonne idée. Jérôme Pinault.
J'ai hésité entre deux sujets.
Pas de vélo, hein.
Ah non, alors j'évite le vélo.
Voilà, c'est
le vélo, d'accord. Donc, comme tu nous proposes un certain nombre de sujets au fur et à mesure de la journée, et puis comme tu parles beaucoup, tu perds du temps, donc tu ne peux pas tout aborder. Je pensais que tu voulais aborder Joe Mazzulla, l'entraîneur de cette équipe NBA qui veut que les mecs se retapent sur la tronche, voilà, de Boston.
Très bon, ça. Marqué, un entraîneur NBA, champion en titre, qui veut instaurer les bagarres comme en hockey. Voilà. T'es pour ou t'es contre, toi?
Ah, moi, je suis pour, moi, pour du coup.
Ah ben, on verra peut-être.
Tant que je suis pas sur le parquet, ça me va.
On verra peut-être tout à l'heure. Sait-on jamais. Simon Dutin.
Voilà, j'ai
c'est
cherché.
C'est pas grave,
t'as pas bossé,
non,
Simon.
Non, mais bon, ça pourrait parler un petit peu de NBA. On a un nombre record de Français dans les franchises NBA qui jouent. C'est une nouveauté. Est-ce que.
Je vais
en train de devenir la meilleure nation après les États-Unis dans le monde du basket.
Oui. J'ai toujours dit à Fred Weiss, il n'y aura pas de basket, il n'y aura donc pas de vélo non plus, mon cher.
Je me suis dit que pervers comme tu es, tu aurais pu proposer un sujet NBA le jour où Fred n'est pas là. Ça aurait été bien senti.
C'est vrai que je suis pervers. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Henri Frédéric Amiel qui a dit un jour, revois deux fois pour voir juste, ne vois qu'une fois pour voir beau.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde. Alerte aux fans de foot. Ce message est pour vous.
Je serai vous, j'attendrai la mi-temps.
C'est quand la mi-temps? On doit pas être bien loin.
Avec DAZN, streamez tous les matchs de Ligue 1 McDonald's.
Le mieux c'est de regarder le match, vous avez la télé.
Mais je vais pas regarder un match de foot maintenant.
8 matchs en direct et 1 en décalé chaque week-end de championnat.
L'OM contre Auxerre.
Mais je m'en fous.
DAZN, c'est toute la Ligue 1 McDonald's.
Remarquez que moi le foot, hein, ça m'agite pas beaucoup.
Tous les matchs, tous réunis, seulement sur DAZN.
Tu t'intéresses au championnat?
Non, pas depuis quelque temps.
Bravo à la production. Et oui, j'ai dit allez l'OM, Lucien. En 6 mois, nous espérons atteindre 1,5 million d'abonnés, au minimum 1 million. Cette phrase date du 14 août dernier. Elle a été prononcée par le PDG de DAZN, Shai Segev. 2 mois et demi plus tard, le compte n'y est pas. Selon nos informations, le principal diffuseur de la Ligue 1 comptabilise environ 400 000 abonnés. Le classique OM-PSG, vous le savez, le week-end dernier, devait servir d'accélérateur, une flambée de nouveaux convertis. C'est un peu raté. À titre de comparaison, Amazon Prime Video, selon les informations de l'équipe, avait très vite atteint les 1,7 million d'abonnés dès sa première année. Même Media Pro avait réussi à réunir 600 000 abonnés après 3 mois. De compétition. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le manque de visibilité va-t-il tuer notre championnat? Oui ou non? Cyril Linette.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Marie Martineau.
Ça me paraît assez évident, oui.
Simon Dutin.
Non.
Il y a un vrai axe, Marie, Cyril.
Ouais, c'est assez rare, mais ça
Jérôme,
qu'on est enfin réunis.
C'est la première fois.
D'habitude, on est au télé, tu es pas forcément là, mais la première fois qu'on est assez aligné, ouais.
Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste sur ce dossier, sur ces dossiers. C'est Arthur Perrault. Bonjour, Arthur.
Salut, Gégé. Bonjour à tous.
Alors, déjà, un constat froid, implacable. année après année, bah, la Ligue 1 est de moins en moins regardée.
Oui, avec ce nouveau point 1 date du côté de DAZN, environ 400 000 abonnés avant sa campagne de promotion. Avec, on le rappelle, un abonnement à 19,99€, la plateforme comptabilisait 130 000 abonnés. On se situe dans la trajectoire que nous nous sommes fixés depuis notre arrivée en France, précise-t-on aujourd'hui dans l'entourage du média. En coulisses, la direction de DAZN s'agace du piratage toujours aussi important en France. Si la barre des 1,5 million d'abonnés n'est pas atteinte au 1er décembre 2025, DAZN ou la Ligue de football professionnelle peuvent activer une clause de sortie. Autre changement important cette semaine, DAZN ne diffuse plus les buts de Ligue 1 sur ses réseaux sociaux, uniquement les célébrations. Une source proche du géant britannique conclut « Aujourd'hui, nous souhaitons nous concentrer sur la satisfaction de nos abonnés. »
Merci beaucoup Arthur Perrault, tu restes avec nous évidemment pour ce débat. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, venez participer avec nous et venez nous dire justement si vous vous êtes abonné ou si vous hésitez encore. Ce manque de visibilité, est-ce que ça va tuer notre championnat? J'ai deux oui, j'ai deux non, on va commencer avec un non. Jérôme Pinault.
Alors j'ai dit non, mais j'ai un bémol quand même. Je dis non d'abord d'une part. Pourquoi? Parce que ne pas être abonné à DAZN, ça ne veut pas dire ne pas suivre la Ligue 1. On s'exacerbe, on est en colère. On a dû beaucoup de gens autour de moi suivre la Ligue 1 toujours sans être abonné à DAZN, alors qu'ils l'étaient avec les chaînes précédentes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne suivent pas la Ligue 1.
Ils suivent comment?
IPTV.
Ok, un piratage.
Parce que aujourd'hui le
produit. Tu vas nous donner les noms, hein.
Non mais évidemment, c'est comme tous ces débats où tout le monde parle des matchs lundi. Tout le monde a vu les matchs. T'es abonné? Non, je suis pas abonné à DAZN. Mais t'as l'IPTV? Non. Et bien sûr que si. Donc les gens suivent ça. Déjà, tu peux suivre aussi ta Ligue 1 parce que t'as envie de la suivre. Tu peux aller chercher les infos. Il y a énormément de supports. Regarder les matchs, ça veut pas dire suivre la Ligue 1. Et la deuxième chose, je dis non avec un bémol, Cyril. Pourquoi? Parce que je pense que depuis un long moment déjà, beaucoup d'entre nous se désintéressent de la Ligue 1. Aujourd'hui, peu de gens sont, comme par le passé, accrochés à notre championnat de par la domination du Paris Saint-Germain. Les gens ont décroché énormément. Il n'y a plus la concurrence. Et sur quoi on bascule? Puisque en tant que passionné de sport et de football, dont je fais partie, je suis abonné depuis très longtemps à Canal.
Oui, mais
ce qui n'a pas changé. Aujourd'hui, ma consommation de football, elle va vers du spectacle, vers des choses beaucoup plus serrées, sportivement plus équitables. La Ligue des Champions, l'Europa League.
Non mais
aujourd'hui,
d'accord.
La Ligue 1,
tu
peux la suivre.
Les gens peuvent continuer à suivre, mais là, la question, c'est va-t-il tuer la Ligue 1? On parle de
business
model. Non,
elle ne tuera pas la Ligue 1. Elle ne tuera pas la Ligue 1 parce que il va falloir de toute façon se rendre à l'évidence que ce qui a été fait, et là, je laisserai Cyril évidemment développer, ce qui a été fait, l'attribution de ces droits-là, il va falloir revoir ça bien avant la date échéance. Sinon, évidemment que le modèle économique est en danger. Mais je peux pas croire, Cyril, et là je vous fais une passe, je peux pas croire qu'on laisse chuter ainsi notre championnat et aller droit dans le mur un certain nombre de clubs. C'est pas, pour moi, pas imaginable.
Bah, tu as interpellé Cyril, tu peux entrer dans le débat. Pour toi, oui, ça peut tuer le championnat.
Ah, mais ça va tuer le championnat si ça doit durer. Alors, je précise que je suis plus en campagne, je parle vraiment en tant qu'expert et passionné. Canal, c'est 5 millions d'abonnés, DAZN, c'est donc 400 000. C'est pas très compliqué de faire le rapport. En gros, l'audience de la Ligue 1, elle a à peu près été divisée par 10. Au minimum 10 par rapport à il y a 7-8 ans. Et c'est pas le dernier choix de DAZN. C'est des changements de diffuseurs sur les 6 dernières années qui ont conduit à changer 4 fois de diffuseur et à chaque fois se diriger vers un diffuseur avec une assiette d'abonnés de plus en plus basse. Donc, l'audience a été divisée par 10. Un PSGOM sur Canal, c'était 2,5 millions d'abonnés à chaque fois. Là, je pense que s'il y avait 400 000 abonnés sur DAZN, il n'est même pas certain que tout le monde ait regardé, parce que croyez pas qu'on regarde systématiquement tous les matchs. C'est pas comme ça que marche la télé payante. Qui parle encore de foot, de Ligue 1 dans les bistrots? Écoutez bien les conversations dans les bistrots, de moins en moins. Est-ce qu'une scène comme celle du dîner de cons pourrait aujourd'hui trouver sa place dans un film, dans une fiction? Je pense que personne n'aurait l'idée de mettre une scène avec un match de Ligue 1 que Daniel Prévost veut regarder chez un copain. Et pensez aussi aux abonnements collectifs. Moi, mon fils a voulu regarder le Classico dans un bar à Paris dimanche, il n'en a trouvé aucun. Aucun bar parisien ne s'est abonné collectivement aujourd'hui à DAZN. Ça aussi, c'était une consommation majeure du football et des grands matchs de Ligue 1. Faites le tour, hein. Ils ont tous gardé l'abonnement Canal. Il n'y a pas de bar, je connais en tout cas à Paris, abonné aujourd'hui à DAZN. Donc c'est évidemment catastrophique. Pour moi, le foot tient encore parce que vous êtes là. vous, RMC, l'équipe, l'équipe du soir. C'est-à-dire qu'il y a les matchs, assez peu de gens les voient, mais les on émissions. Continue d'en parler beaucoup dans les émissions.
Mais pour combien de temps ?
Exactement, Marie. Si demain, vos audiences, que je souhaite absolument pas, se mettent à baisser, si l'after se met à baisser, parce que finalement, ben, loin des yeux, loin du cœur, on voit plus les matchs, donc on a moins envie d'en entendre parler, et que cet écosystème commence à se dire, en réalité, les gens, on parle plus trop de Ligue 1, hein, parce que vous avez vu que ça fait baisser les audiences, ce sera catastrophique pour le foot. Donc oui, la Ligue 1 est en danger de mort.
Okay. C'est pour ça, Cyril, que je te dis que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas imaginer. Dans,
mais la nature a horreur du vide. Regarde comment exactement. Canal a réussi à remplir avec le rugby et ça roule. Mmh. Ça roule. Je veux dire, les gens, ils suivent autre chose. Non, mais il y a les vrais fans de foot comme toi, comme Cyril, qui ont vraiment cette appétence. Simon aussi.
Cette année, parlons
si tu regardes la Ligue 1,
cette année, les clubs de Pro D2 toucheront plus en droit que les clubs de Ligue 2. De Pro D2 rugby. Alors, quand Marie dit ça roule, c'est pas. Les rugby sera jamais aussi puissant. Moi, j'ai toujours pensé que le foot était insubmersible. J'ai toujours pensé ça depuis 40 ans.
Et pour autant, tu commences à te dire que c'est pas tant si évident.
J'ai un doute. En modèle économique, la Pro D2, les clubs de Pro D2 vont toucher plus de droits que les clubs.
C'est fou, hein, ce qui aurait été impensable il y a 5 ou 10 ans. Marie Martineau.
Avant, il y avait aussi une nécessité sociale d'être au courant de ce qui s'était passé dans les matchs le week-end. T'arrivais le lundi au bureau et tu avais envie de t'intégrer aussi à l'audition. Ouais, comme le bistrot, exactement. Sauf que là, comme tu ne peux plus le voir, ou enfin, ça demande quand même de faire un certain effort financier. Et ben, en fait, si tu ne vois plus, ça va sortir des discussions. Si ça sort des discussions, ça va être très compliqué.
Mais ça sort un peu. Il n'y a plus le rituel du match du dimanche soir, comme moi j'ai connu en tout cas plus jeune.
Par exemple.
C'est-à-dire que le lundi matin, bah, tu débriefais ce que tu avais vu. Alors que ce soir, tu débriefais les commentaires, tu débriefais l'ambiance, tu débriefais le match en lui-même.
Et si tu ne l'avais pas vu à la maison, effectivement, tu l'avais vu au bar ou tu vois.
Limite là, aujourd'hui, on débriefe les buts. Parce qu'au final, on voit que les buts.
Ouais, les petites. Ouais. Et encore, a priori, ils veulent faire en sorte qu'on les voit plus trop sur les réseaux. Hein,
tu te rends pas compte, Jean-Christophe, mais c'est vous qui entretenez le feuilleton aujourd'hui. C'est RMC, l'équipe, c'est vous. C'est tous les soirs l'énergie qui est mise. Mais si demain, effectivement, vous vous rendez compte qu'il vaut mieux parler d'autre chose que de ça, ou vos grands patrons se disent, attends, l'audience, c'est plus tout à fait la même, ce que je crois pas et ce que je souhaite pas.
Mais c'est quand même
mécaniquement, ça va arriver.
C'est quand même une preuve que ça marche.
Ça marche, que ça intéresse encore les gens. Mais la bête, elle est nourrie plutôt par les commentaires autour des matchs que par les diffusions. Attention, si ça plonge au niveau des commentaires, la nature aura du vide. Je rejoins Marie sur cette expression.
Simon Dutin.
Moi, je suis un peu partagé, donc prudent là sur ce sujet, parce que je pense, et mon optimisme, je pense que la Ligue 1 ne mourra jamais parce que j'ai souvent l'occasion de le dire pour les gens qui aiment le foot. Et en fait, plus quand on parle de Ligue 1 que le foot, les gens, ils aiment leur club. Voilà. Et l'actualité, les résultats de leur club occupent chez beaucoup de gens une grosse partie de leur horizon affectif, culturel, remplace parfois un vide amoureux. C'est-à-dire que c'est très important pour énormément de gens qui, à ce titre-là, continuent de s'intéresser à la Ligue 1 par les biais qu'on leur offre. Là où je suis pas d'accord avec Cyril, c'est que, justement, l'intérêt pour son club, l'actualité de son club, il ne mourra jamais. En revanche, le feuilleton, ce qu'on appelle le feuilleton, il n'existe plus. Il est terminé. Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses. Il y a l'ultra-domination du Paris Saint-Germain, l'absence de concurrence, l'absence de résultats sur la scène européenne, même si on peut avoir des espoirs cette saison. Donc je pense qu'à
la
ce titre-là, il faut repenser...
Aussi.
Je pense qu'il faut repenser le modèle. Moi, il m'arrive de donner des cours à des jeunes apprentis journalistes. Et je partais du principe que, en fait, tous ces gens-là, qui ont une vingtaine d'années, regardent la télévision. Voilà. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, la moitié d'entre eux, ils n'ont même pas la télévision. Ils ne regardent pas la télévision. Ils ne consomment pas la vidéo par le modèle de la télévision. Et je pense que... l'apparition des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle la tech, tu vois, qui fait très peur au conservatisme qui entoure bien souvent les décisions prises dans le football français. Je pense que la tech a un rôle à jouer là-dedans et qu'il faut repenser le modèle, proposer des nouveaux formats. Alors j'entends que le morcellement de l'offre te fait perdre des abonnés ou de l'intérêt, mais je pense qu'il faut repenser. Il faut proposer aux supporters des offres qui leur permettent de ne regarder que les matchs de leur équipe, qui leur permettent de ne regarder que des résumés.
Vous n'avez pas besoin de regarder un modèle de la NBA. Tu décris que la NBA a très bien fait, c'est-à-dire un modèle mainstream et ensuite un modèle NBA Pass pour des gens plus jeunes à des prix plus modiques et qui permettent de voir des highlights ou des matchs en direct de certaines de leurs équipes.
Et si
ça,
tu
c'est
veux
effectivement le seul moyen. Hein.
Et ouais. Moi, j'ai été, parce que pour éviter de dire des bêtises, je participe à l'after ici, donc bah, moi, j'ai été contraint de m'abonner hein, auprès du diffuseur qui. Bon. C'est la première offre, c'est 20 euros, voilà, par mois.
J'ai fait la si même clubs, le week-end dernier.
Si les clubs ont peur de la désaffection, si les clubs veulent que les droits télé soient plus chers, bon, t'es allé commander une bière ou une bière sans alcool à la buvette d'un stade, à la mi-temps d'un stade.
Oui.
C'est hors de prix le hot dog, c'est hors de prix. Tu penses aux gens qui emmènent leurs gosses et tout. Eh ben, baissez le prix baissez les prestations des gens qui servent à bouffer, à boire dans les stades. Baissez-les de 2 ou 3 euros, c'est possible. Tu vas donner aux gens la possibilité de s'abonner au diffuseur qui pourra lui te redonner. Il y a des solutions qui existent. Si je te vois hocher la tête, Jean-Christophe, mais parce que toi, t'as les moyens de t'acheter des bières à
20 euros.
Non, mais je veux dire, il y a des moyens pour, je veux dire, 20 euros par mois. Pour quelqu'un qui adore le foot et qui en a besoin, tu peux les trouver et tu peux faire des économies pour t'offrir l'abonnement.
Les jeunes vont au stade. En revanche, moi, j'ai une fille de 18 ans qui va au stade. Elle consomme la Ligue 1. Et alors, on habite dans une ville de Ligue 1, évidemment. Donc elle est consommatrice de Ligue 1. On est d'accord puisqu'elle va au stade.
Les places sont chères quand même. Hein.
Ah ouais.
Les prix restent élevés.
Franchement, dans la ville où j'habite, à Nantes, les places pour aller voir le match en tribune Erdre ou en tribune Jules Verne ou en tribune Loire, elles sont pas si excessives que ça.
Non, mais
regarde par rapport aussi à leur consommation de tous les jours. Les gamins aujourd'hui, ils veulent aller au ciné, c'est 20 balles. Enfin, je veux dire, d'aller voir un match de foot, c'est le même tarot. Donc, à la limite, tu sais, presque tu vas au foot, c'est le spectacle du week-end parce que tout le reste est plus cher. Ils vont jouer au bowling, ils boivent une canette, c'est fini. Ils sont déjà au-delà du prix du stade. Donc, moi, ma gamine qui est une passionnée de football parce que je regarde le football, va au stade, c'est l'activité du week-end. Alors effectivement, on habite à 15 bornes du stade, donc il n'y a pas les frais d'essence et de transport, et le stade est accessible, et les places sont accessibles. La jeune génération consomme aussi comme ça. Est-ce qu'ils sont consommateurs de Ligue 1 et est-ce qu'ils continuent à entretenir, non plus le feuilleton, mais au moins le match, et consomment Ligue 1? Oui.
Oui, mais c'est quand même le feuilleton qui était rémunérateur pour les clubs, on est d'accord.
En termes de business model, il faut un feuilleton. Après, vous avez pointé quand même deux éléments importants, qui sont l'élément d'attachement au club. Je suis tout à fait d'accord avec Simon. Ça, c'est un attachement très fort qu'on a toute sa vie. On est fan d'un club 7 jours sur 7. Alors, qu'est-ce que les clubs font pour nourrir l'attachement au quotidien avec leur
supporter? Ça dépend desquels?
À mon avis, ça dépend desquels. Globalement, quand même, assez peu. Ouais. Trop peu, je pense, parce que c'est des communautés très captives qu'il faudrait adresser. Et deuxièmement, effectivement, l'expérience au stade. Oui, les jeunes ne peuvent pas toujours être sur leur téléphone. Ils ont besoin d'expérience physique, d'être avec des potes, de faire des choses. Et les stades, c'est un élément positif, sont plutôt assez bien remplis. Les fréquentations, c'est pas extraordinaire, hein, le taux de fréquentation.
Ouais, mais c'est très citadin, tout ce que vous dites. C'est hyper citadin. Tout le monde ne vit pas à côté, dans la banlieue de Nantes. Tout le monde ne vit pas à Paris. Enfin, il y a quand même une énorme majorité de Français qui sont très très loin, à 2 heures de route du premier stade, et qui vont pas entretenir la magie en allant.
Je l'ai signalé, Marie-Chédie. Oui, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'on est tout près.
Ouais, c'est ça.
Je voudrais revenir sur un point qui est important dans ce contrat, parce qu'on parle aussi des droits télé. Et si ce chiffre, on le disait et Arthur l'a rappelé, de 1,5 million d'abonnés n'est pas réalisé au 1er décembre 2025,
c'est donc dans
un peu plus d'un an. Eh bien, DAZN peut dénoncer le contrat et sortir au bout de la deuxième saison.
C'est un choix des présidents. Hein. C'est pas une demande de DAZN. Ils ont entre guillemets accepté, mais c'est une demande des présidents qui était une manière de dire de toute façon. On ne croit pas complètement en vous. En tout cas, on a besoin d'un plan B. Donc, ça, malheureusement, c'est un choix.
Mais on se dirige vers ça, clairement. Aujourd'hui. Même si tu n'as pas la boule de cristal.
Un million et demi d'abonnés dans un an, ils ne les auront pas. Non, bien sûr. Mais non, tout se joue quand même dans les premiers mois. Donc, il faudrait faire un reset complet. Il y a un côté un peu militant qui s'est installé chez beaucoup de gens. Enfin, donc je pense que ce sera très difficile.
Ouais. Et il y a aussi autre chose qu'on sent monter déjà dans la direction de DAZN, c'est le piratage. C'est-à-dire qu'ils l'ont signalé au bout de la première journée. Certes, la Ligue y travaille en essayant d'empêcher les liens Telegram, on en parlait tout à l'heure, hein, l'IPTV et tout ça. Mais force est de constater, on l'a encore vu lors du classique entre l'OM et le PSG.
Et moi, je suis
ça continue
d'accord.
de grimper. Ça agace la direction de DAZN. Rien ne dit que demain, Shai Segev, le patron de DAZN, arrive avec un dossier à la Ligue en disant: regardez, vous avez fait des choses, ça continue et moi je peux pas faire mon boulot.
Ouais,
voilà, c'est une réalité.
Le piratage,
et ça peut être une raison de sortie aussi du côté de DAZN.
C'est un prétexte. Le piratage, c'est un prétexte.
Oui, ils peuvent l'utiliser.
Oui, ok, mais c'est un prétexte. Le piratage, c'est la conséquence de tout ça, c'est pas la cause. Hein. Si on met au bon prix, oui. Si on a une politique bien organisée, raison, généreuse, si on est fidèle à ses diffuseurs et autres, le piratage qui a toujours existé n'augmente pas de manière exponentielle comme aujourd'hui. C'est très embêtant, mais c'est une conséquence, c'est pas la cause. Ce sera pas la cause d'un échec.
Et il le savait,
c'est pas la conséquence
de
mauvais choix.
Ce qu'on peut signaler aussi, c'est que avec tout cela, les passionnés de football sont en manque. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, donc j'habite en milieu périurbain. Il y a énormément de monde au stade le dimanche. De plus en plus de monde dans les communes qui jouent la R1, la nationale. Les gens aiment le foot puisqu'ils ne peuvent plus consommer le produit phare. Ils se rapportent sur des nous, on a un club qui s'appelle Carquefou à côté de la maison. Ça joue, il y a du monde. Les gens viennent consommer. Donc, je pense qu'il suffit de retrouver quelque chose qui les ramène et ça se relancera. On n'est pas en train de perdre la Ligue 1. Le produit ne convient plus à ce que les gens attendent. D'autant plus que lorsqu'on s'abonne, et là on revient aux jeunes, et je vais reparler une dernière fois de ma fille, et là on peut dire tout ce qu'on veut, le produit n'est pas premium du tout. Et les gamins, quand ils s'abonnent, quand on s'abonne à la maison, que tu payes 20 balles pour voir de la Ligue 1, tu t'attends à quelque chose de premium. Je suis désolé, ce que je regarde moi le dimanche soir, c'est absolument pas premium.
Ok, on arrête le débat ici. En tout cas, sachez que sur RMC, c'est gratuit. Vous pouvez entendre les matchs avec tous nos commentateurs, évidemment, sur les terrains, et notamment la rencontre ce soir, 10e journée de Ligue 1 entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Mais il y a d'autres rencontres aujourd'hui. Donc, nous sommes là sur RMC, évidemment, pour vous parler de notre championnat. Merci beaucoup, Arthur Perrault, d'avoir été avec nous. Et toutes les dernières informations sur rmcsport.fr.
Tu sais ce que disait Orson Welles à propos de la radio? C'est comme le cinéma, mais sauf que l'écran est plus grand.
Très bien, bon, on l'embrasse. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Max Verstappen, est-ce qu'il a un comportement de champion du monde? Oui ou non? Les juges ne sont pas d'accord, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30 de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC, en direct évidemment, comme tous les samedis et dimanches jusqu'à midi. Marie Martineau, Cyril Linette, Jérôme Pinault, Simon Dutin dans 10 minutes, restez bien avec nous. Il y a le débat caché, ça va vous plaire, ça va vous faire réagir forcément, mais vous entendez derrière moi ce bruit de Formule 1, car exceptionnellement, c'est assez rare pour le souligner, aujourd'hui, il y a les qualifications, ce dimanche, les qualifications du Grand Prix du Brésil qui vont partir dans 3, 2, 1. C'est bien fait, ça part maintenant ces qualifications pour la Q1. Sachez qu'il y aura le Grand Prix à partir de 16h30, donc dans la même journée, qualification plus Grand Prix en raison des conditions météo au Brésil. Hier, ça a été décalé et on retrouvera Jean-Luc Roy dans quelques instants. On va donc parler F1 maintenant.
RMC, la punchline GG.
Max est un pilote tellement génial.
Je reprends évidemment, attendez avant de lancer la punchline les copains. J'ai toujours autant de respect pour Max et tout ce qu'il a fait, mais je n'ai pas de respect pour ce qu'il a fait le week-end dernier. Il sait que ce qu'il a fait est mal. Lando Norris a mis les choses au clair cette semaine en conférence de presse, quelques jours après le chaos du Grand Prix du Mexique. Max Verstappen jouant les fous du volant avec deux manœuvres très dangereuses. Et avant le Grand Prix du Brésil, aujourd'hui, Zak Brown, le directeur de l'équipe de McLaren, prévient. C'est donc la punchline des GG rapportée par notre copine Siri, la rapporteuse.
RMC, la punchline GG.
Max est un pilote tellement génial. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de piloter ainsi. Pilote tout simplement comme le champion du monde que tu es. C'est inutile. Cela met tout le monde en danger et ce n'est pas de la course propre.
Cela met tout le monde en danger. Évidemment, c'est McLaren qui parle. Mais le comportement de Verstappen, est-ce qu'il est digne d'un champion? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Cyril Linette.
Oui.
Marie Martineau.
Ouais, je dis oui aussi.
Ok, vous êtes oui. On va retrouver justement au Brésil avec nous Jean-Luc Roy, notre commentateur. Bonjour Jean-Luc, je le disais, les qualifications viennent de partir. Tu peux nous en dire un mot et évidemment aussi commencer à répondre à cette question. Mais attention Jean-Luc, je te fais confiance, pas 4 minutes. Hein. Vas-y Jean-Luc Roy, bonjour.
Bonjour, salut JC, bonjour à tous.
Allez, Jean-Luc. Salut Jean-Luc.
Oui,
Jean-Luc.
Bah oui, c'est chaud là, c'est le cas de le dire. Et sous la pluie, hein, donc on a tous ces atermoiements pour d'arriver au même résultat qu'hier. On en parlera dans un instant. Écoute, la réponse pour moi, elle est 1000 fois oui, bien évidemment. D'abord, c'est un immense champion, mais ça ne donne pas tous les droits. Et si vous voulez bien vous en rappeler, on aurait eu exactement le même type de débat avec Hamilton à certaines occasions, avec Vettel à certaines occasions, avec Schumacher, n'en parlons pas, parce qu'il y a eu vraiment des manœuvres horriblement dangereuses. Et bien sûr, pour moi, le plus grand d'entre tous, Ayrton Senna. Et j'allais dire, même Alain Prost, si on étudie tout, Nelson Piquet, enfin, il n'y a pas, je crois, un champion du monde de Formule 1 qui n'ait pas eu, à un moment ou à un autre, un comportement limite. Alors, effectivement, peut-être en se sachant un petit peu protégé par son statut, il faut oser le dire, mais c'est le cas dans tous les sports. Vous le savez encore beaucoup mieux que moi. Vous connaissez beaucoup mieux tous les autres sports que je ne les connais. Mais il y a toujours une prime au dominateur, une prime au vainqueur, une prime à la star. Bon, ça c'est une chose. La deuxième, il faudrait reprendre, et tu m'as dit pas 4 minutes, donc je vais la faire brève, les dernières, on va dire, pénalités appliquées à Verstappen. Alors, pour ce qui concerne Austin, déjà, c'est très simple. Bah, il a respecté le règlement à la lettre, parce que lui, il le connaissait, lui, il l'avait lu. Donc, si Norris l'avait connu également, et si McLaren, ils ont des centaines de gens qui réfléchissent à ça, et Zach Brown, au lieu de le critiquer, il ferait mieux de faire son boulot, eh bien, on aurait dit à Norris, tu laisses ta place, tu vas le repasser, il te reste 4 tours, t'as une voiture tellement plus rapide que lui. Bon, on l'a pas fait, alors après, s'en prendre aux autres, c'est facile. Maintenant, on prend le Mexique. Alors, le virage 4, c'est le premier, si vous avez les images en tête. Oui, là, effectivement, il lui fait pas de cadeau, il le met dehors, mais c'est pas dangereux du tout. C'est à, j'allais dire à 35 km/h, je le dis exprès, mais c'est pas vite du tout, il y a aucun risque. Maintenant, bah, il est pas sympa, mais bon, c'est le jeu. En revanche, la manœuvre 8, alors, 8, sur le virage 8, alors là, oui, d'accord. Là, il plonge à l'intérieur, ça, c'est pas bien, ça, là, il est critiquable, là, on lui met une grosse pénalité, tout ça, c'est normal.
Ok, mais maintenant, on peut pas le critiquer surtout, il est 17h50, mais donc on avance un petit peu dans l'émission.
2,45 Jean-Luc, ça passe pas en Q2 là, désolé.
Je reviens Jean-Luc. Jérôme Pinault, pourquoi ça t'agace toi le comportement de Max Verstappen?
Non, parce que la question elle est, a-t-il un comportement? Moi j'ai pas dit que c'était pas un champion, j'ai dit que ce comportement là est pour moi comparable à celui du Real qui veut pas aller parce que tu gagnes plus donc tu viens pas, donc comme tu gagnes plus et tu domines plus, t'as un comportement limité. Ça, pour moi, un champion, il doit être digne, il doit respecter, il doit être fair play, et si t'es au-dessus, eh bien tu le montres avec tes armes à toi. Et pas, ça fait très longtemps qu'on entend parler de Verstappen dans le mauvais sens. Depuis quand? Depuis qu'il commence à plus dominer les Grands Prix. On s'attendait à ce qu'il domine la saison, et je pense, et j'ai toujours cette réflexion-là de me dire, s'il avait dominé tous les Grands Prix, je pense qu'on n'aurait pas eu tous ces soucis avec lui. Ça commence à faire beaucoup. Dans le comportement, notamment le week-end dernier, Jean-Luc nous explique qu'à un moment, il peut-être, ok, mais c'est pas beau à voir et c'est pas digne d'un champion. Voilà, moi.
Oui, mais
c'est son comportement sur le coup. Je dis pas que Max Verstappen n'est pas
un champion. Mais c'est pas la question,
hein. Si tu fais un parallèle avec ce qui se passait avant, il était beaucoup moins dans l'adversité, donc il n'y avait pas ces confrontations directes là. C'est la première saison.
Mais c'est dans l'adversité que tu deviens un champion.
C'est la première saison où on le voit être obligé justement de jouer des coudes avec les autres.
Mais je vois pas. Au-dessus.
Oui, mais donc du coup c'est ça la différence, c'est qu'avant il n'était pas plus un champion ou championnable, c'était juste qu'il n'avait pas trop à se frotter avec les autres. Là, il a à se frotter avec les autres, il joue un peu des coups. C'est de la course automobile, enfin je veux dire, arrêtons 5 minutes aussi. Ils arrivent à 2,40 dans des courbes, ils sont à 2, ça passe pas à 2. Enfin, il y a toutes les décisions qu'ils doivent prendre, ils doivent les prendre dans un centième de seconde.
Enfin, sur la piste et en dehors de la piste, il a pas toujours eu un comportement.
Et en dehors de la piste, ouais. Moi, je suis pas très fan de ce mec-là de base, et je trouve qu'il est assez inattaquable en dehors de la piste aussi.
Il a quand même voulu quitter la F1 il y a trois semaines ou un mois. Hein.
Justement, ce que vous racontez, c'est un peu contradictoire. C'est pas simplement parce qu'il est un peu plus en concurrence sur cette fin de saison et un peu moins dominateur que son comportement a changé. Son comportement a toujours été, y compris lorsqu'il était avant ses trois titres de champion du monde, a toujours été un peu discutable. Je pense que c'est ce qui distinguera sans doute dans quelques années. Souvent, vous faites ces débats dans les grandes gueules. Son statut de champion par rapport à son statut de légende. On va dire qu'une légende, même si parfois on a tendance à oublier certaines choses, c'est quelqu'un qui aura ajouté à un titre, un certain nombre de titres. Lewis Hamilton, par exemple, voilà, avec ses titres de champion et une attitude toujours chevaleresque. Probablement que Verstappen sera rangé dans une catégorie des champions extraordinaires, des pilotes remarquables, peut-être un peu moins dans la catégorie légende, parce qu'il y aura toujours un peu cette image qui aura collé à sa monoplace. J'en sais rien, hein, mais j'ai le sentiment, voilà, que sa personnalité est un peu plus discutée.
Moi, je suis même pas sûr, Cyril, parce que j'ai l'impression que les gens finissent par aimer ça, que en plus à mesure que tu t'éloignes de la fin de leur carrière sportive,
oui, justement, t'oublies tout ça. Ouais.
Il y a cette, je veux dire, Schumacher a eu des comportements dégueulasses sur la piste. Il y a eu le Grand Prix de Hongrie en 2010, et il y avait eu l'histoire avec Barrichello, mais il y avait eu d'abord Damon Hill qui l'accroche, je crois, dans le tour de formation 94 pour s'assurer
qu'il
se passera rien et qu'il sera assuré
son premier titre,
du titre.
Il y avait sur le moment, il a été décrié. On a quand
il,
même les commentaires c'était
c'est pas un comportement digne d'un champion, d'accord.
Mais justement,
je dis pas qu'il est pas devenu champion, je dis qu'à ce moment-là on disait c'est pas digne d'un champion.
Il a été même détesté pour ses malheurs. Regarde 20 ans après, bon, et 30 ans après, Schumacher c'est la légende de la Formule 1. Jean-Luc rappelait que Ayrton Senna, bon, pareil, n'avait pas toujours un comportement. C'est des mecs qui sont à un niveau d'égocentrisme, ils sont persuadés que ils sont les meilleurs, que on ne peut pas les dépasser. Donc au bout d'un moment, ça se joue à la nanoseconde, il y a des réflexes forcément. Senna l'a fait, Raikkonen l'a fait. Moi je pense que il y a un problème, parce que évidemment quand tu mets l'argument de la vitesse et des risques, tu t'es obligé de dire bah oui, tu joues avec la vie de tes copains, de tes adversaires. Je pense que il faudrait qu'il y ait un peu plus d'anciens pilotes parmi les commissaires sportifs. Parce que regarde,
il y en a toujours un normalement à chaque
fois. Ouais, mais je veux dire, bon, j'ai appris en bossant un peu que Johnny Herbert, ancien pilote qui a quand même compté sur les grilles de départ, il était commissaire à Mexico, bah comme par hasard, Verstappen, il a pris deux pénalités de 10 secondes.
Il y a un peu
il est britannique comme Lando Norris.
Oui,
alors c'est marrant parce que vous avez
mais juste pour terminer, en athlétisme, tu vois, aux 800 mètres, ça peut se faire des croche-pattes pour prendre la position. En sprint, il y a des sprinteurs qui sont pas propres, Jérôme, et qui pourtant peuvent être considérés comme.
Et encore une fois, je reviens sur moi, je suis très scolaire. On m'a demandé c'est le comportement
track,
actuel. Il était digne d'un. Je dis non. Quand dans des sprints, dans le tour, il y a des gens qui jouent des coudes et que ce soit des légendes comme Mark Cavendish, si quand Cavendish fait une erreur, sur le moment, il n'est pas digne d'un champion. Et moi, je pense qu'actuellement, entre sur la piste la semaine dernière et les Grands Prix précédents, et son comportement extra en dehors de la piste.
Mais quoi, qu'est-ce que tu lui reprocherais en dehors de la piste?
Moi, je vais te donner. J'ai un terme. Non, non, le fait qu'il fasse des grandes déclarations.
C'est une grande gueule, ouais. C'est un sale gosse, une grande gueule.
Le thermomètre de tout ça, c'est les gamins. Et vous savez, j'en parle parfois. J'ai un filleul qui fait du karting, qui est très fan de cet homme-là. Il l'est un peu moins depuis quelques temps. Il est un peu moins en extase devant ce mec-là.
Juste quelques informations, parce que tu parles justement de ce possible, pourquoi pas, conflit d'intérêts entre commissaires britanniques et donc qui avantagerait Lando Norris. Eh bien, Jos Verstappen, le papa, s'est précipité dedans après le Grand Prix du Mexique, où il a demandé à la FIA de regarder s'il n'y avait pas de conflit d'intérêts chez certains commissaires. Il faisait référence évidemment à Herbert. Et puis, après ces manœuvres, Max Verstappen a été très critiqué, notamment par les anglo-saxons, notamment par les britanniques, Damon Hill. Et en fait, il n'est pas venu en conférence de presse. Il a juste voulu s'adresser aux journalistes néerlandais, et selon lui il a déclaré qu'il n'avait pas, Max Verstappen, le bon passeport. Pour les paddocks, et qu'en fait s'il avait une autre nationalité, eh ben, il ne serait pas autant critiqué.
Il a attaqué de tous bords, alors je pense qu'il se défend aussi un peu comme il a envie, et comme il peut, et puis au-delà de ça, je crois qu'il se positionne tellement au-dessus de ça, mais donc c'est un débat qui nous anime, d'où
vient cette espèce d'animosité envers. Il se positionne tellement au-dessus de ça, dans beaucoup de sujets. Je rappelle encore une fois qu'il y a quelques semaines, il a carrément menacé de dire, moi, si la F1 c'est ça, je peux aussi arrêter. Mec, quand t'es un champion, t'assumes, ça peut pas toujours aller bien comme tu veux.
Ayrton
va de l'avant, gagne
aussi.
Des titres. Oui. Voilà.
Ok, Jean-Luc Roy, rapidement sur la Q1, parce que c'était censé être de la Formule 1 au Brésil, là, c'est plutôt du patinage. Hein.
Oui, mais c'est normal, ça fait partie du jeu, et c'est là qu'on voit effectivement le grand talent de certains pilotes qui compensent. Alors, le pauvre Franco Colapinto, là, il vient de se mettre dans le mur de pneumatique. Bon, c'est pas grave du tout, ça arrive. C'est comme ça qu'on apprend. Je rappelle que c'est un rookie, hein, et c'est la première fois qu'il roule dans ces conditions. Donc là aussi, on peut pas demander à quelqu'un de tout savoir. Il a reconnu son erreur. C'est la course automobile. On attaque et on sort quand on est trop vite. Bon, pour le moment, drapeau rouge. Alors, on va attendre un petit peu. Je rappelle que c'est le déroulement normal, hein. Dans la Q1, on va éliminer les 5 moins rapides. On en garde 15, Q2, et puis enfin, les 10 derniers pour la bataille pour la pole. Ben, la preuve que c'était praticable, la piste, et la preuve que la pantalonnade d'hier était ridicule.
Mais oui, parce que les commissaires ont décidé, hein, d'annuler tout bonnement cette qualification et de la reporter à ce dimanche, ce qui est extrêmement rare. Et donc, il y aura le Grand Prix également la même journée à 16h30, et ce sera à suivre sur RMC. On se retrouve un petit peu plus tard. Jean-Luc Roy.
Absolument.
Allez, pour terminer cette émission, nous allons nous régaler, enfin, je l'espère, avec le débat caché, un petit débat à réagir sur l'émotion, sur l'instant. Vous allez débattre, et pour l'instant, vous êtes dans le noir total. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h44, j'adore ce moment. C'est peut-être mon côté un petit peu sadique de seul, quasiment seul au monde, savoir le débat qui vous est proposé dans quelques instants.
C'est
Je
clair.
Sais que vous l'aimez aussi,
dictateur.
Chers auditeurs. Ça va être compliqué pour vous, évidemment, de devoir réagir sur quelque chose que vous n'avez pas préparé, mais c'est ce que je vous demande, évidemment. Marie Martino, Cyril Linette, Jérôme Pinault, Simon Dutin, avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport à partir de midi, les Paris RMC. Nantes, Marseille, tiens, un petit prono. Ce sera quoi, Jérôme Pinault? Nantes-Marseille, on va en parler à partir de midi avec Roland Courbis, notamment Lionel Charbonnier.
Moi, c'est très précisément Nantes va mener 1-0 et va perdre 3-1.
Il propose des belles cotes en plus, Jérôme Pinault.
Non, parce que Nantes ne sait pas garder un score et que Marseille a besoin de gagner.
Ok, attention à parier avec le cœur. Évidemment, c'est souvent source de malheur. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Réagir sur l'émotion, réagir sur l'instant, c'est le rôle que je vous propose. Vous avez proposé des choses d'ailleurs à 11h, de très bons débats. Mais c'est pas ça. Rien à voir. C'était très très dur à trouver aujourd'hui. Vous allez tout comprendre en une fraction de seconde. Car le débat caché du jour, c'est ça.
Oh Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
C'était il y a 18 ans. 18 ans, rendez-vous compte, hein. Jérôme Pinault se chargeait encore comme une mule. Je blague. Marie Martino allait devenir patronne de bar.
C'est fou, ça. Ouais. Oh, c'est si longtemps que ça.
Cyril Linette touchait encore un salaire décent. Enfin, c'est fou. Et Simon Dutin n'était pas encore le sbire de Pascal Praud. Rendez-vous compte, 18 ans, pardonnez-moi. Bref, c'était une éternité. Et ce coup de tête de Zidane revient inlassablement dans l'actualité. Marco Materazzi était l'invité du Super Moscato Show cette semaine et il est revenu sur ses insultes.
Tout ça est vrai. Je me suis retrouvé dans une situation que ceux qui ont joué au foot peuvent comprendre. J'ai été malin pour le faire dégoupiller et la vérité, c'est que j'aurais bien aimé avoir son maillot.
Le lendemain, dans Rotten sans flamme, Christophe Dugarry, le pote de Zizou, a prévenu l'Italien.
Le comportement de Materazzi, il a beau le répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois en essayant de nous expliquer que il a réussi à le faire dégoupiller, s'il estime que c'est la bonne façon de faire, bien lui en face, c'est pas très grave. Voilà, j'ai pas de sujet pour ça. Après qu'il attende des excuses, qu'il attende de se rabiboucher avec Zidane, je pense qu'il peut attendre jusqu'à la fin de ses jours. Non mais voilà, c'est rien à foutre de Materazzi.
Ok, c'est une séquence qui 18 ans après nous fait encore parler.
Ouais.
Le débat. Avez-vous pardonné à Materazzi? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Marie Martino.
Est-ce que j'ai pardonné à Zizou? C'est ça la question.
Je l'attendais. Okay. Jérôme Pinault.
Ouais, elle a anticipé. J'ai surtout pas jamais pardonné à Zizou.
Ok. Cyril Linette.
Oui.
Oui, tu as pardonné.
On a tous pardonné à Materazzi, il a gagné. On ne veut pas dire que Verstappen est un génie, que Hugo Humbert a bien fait, et puis dire que Materazzi a mal fait. C'est la même chose. Il a voulu gagner la finale, il a réussi en faisant sortir Zidane.
Ok. Alors,
pour moi, j'ai jamais pensé le contraire depuis 18 ans.
Ok. Tu n'as jamais.
Je me suis toujours posé la question de est-ce qu'on doit pardonner à Zizou, et j'ai toujours trouvé absolument incroyable qu'on limite cette finale de la Coupe du Monde au geste de Zizou et à la fin de sa carrière. Bien pour sûr. Moi, on a surtout perdu la finale. Au-delà de tout, on a perdu une finale alors qu'on était meilleur. Ce que Materazzi a dit d'ailleurs, on était meilleur qu'eux. Moi, c'est ça. J'en ai toujours voulu, entre guillemets, bien sûr, hein, entre guillemets, à Zinedine de me dire mais pourquoi il a fait ça alors que cette finale, on était censé la gagner. C'est important, une finale de Coupe du Monde. Et ça m'a jamais traversé l'esprit pour Materazzi, jamais.
Toute cette histoire m'a contribué à alimenter ma propre théorie selon laquelle je pense que c'est le tout ingrédient réuni le plus grand match de l'histoire du football, parce que tu prends l'altitude à laquelle ça se déroule, les joueurs, le passif entre ces joueurs, le dernier match d'une légende, voilà, qui quitte la scène, cette dramaturgie, l'invention de la VAR, hein, quand même, on l'oublie, hein, parce que c'est l'invention de la VAR avant l'heure qui n'existe pas. L'arbitre n'a pas vu le geste, et on le prévient parce que on a revu sur les images quelque chose qui a échappé à l'arbitre.
C'est le quatrième arbitre qui regarde sur les écrans de contrôle et qui prévient l'arbitre.
Voilà, c'est Olivier Thom pour les gens de ma génération, Zidane, la Panenka.
Benfica face à Buffon, Materazzi qui égalise.
Moi, c'est ça qui me
sort,
qui m'a marqué.
Le plus grand joueur. Les Français qui doivent gagner, qui finalement laissent la victoire. Donc tout ça, en fait, on ne peut plus le changer.
Du football de sélection, je pense, c'est à l'époque où les sélections.
Je pense, on a atteint une plénitude, voilà. Exactement.
Et de côté, hein, l'équipe d'Italie, enfin, c'est l'équipe d'Allemagne qui est éliminée en demi-finale. C'est le
dans un mondial,
football,
voilà, ouais, fantastique.
Le football de sélection, ouais. Voilà.
C'est le dernier grand mondial en termes de football, en termes de qualité de football. Et moi, il me reste toujours ça en travers avec cet amour que j'ai pour Zidane, comme beaucoup de gens, mais voilà. Et ce dernier match où il prend tout pour lui. C'est là où moi j'ai toujours une amertume envers ce personnage. Je me dis, mais pourquoi avoir fait une telle carrière? Cette image-là. Et pour moi, dans sa tronche, quand il rentre sur la finale, il va dire, c'est mon match. Quelle que soit l'issue, c'est mon match. Ça commence par la Panenka. C'est chaud patate. Il peut aussi se louper. C'est un génie, mais celle-là, elle est passée.
C'est légendaire, absolument.
Oui, c'est légendaire, mais au final, oui. Il a fait ça pour lui.
Non, il vit le match de manière très personnelle. Ouais.
Et moi, cet acte-là.
Donc, t'as pas trop pardonné sur cette finale, Zidane?
Absolument pas. Jamais. Okay. Ah non! Tout le reste, tu me dis Zidane, quand j'étais à Limoges, j'ai eu la chance de le voir jouer en salle, mais j'étais comme un gosse alors que j'avais 35 ans. C'est pour moi quelqu'un à qui je veux même pas parler parce que c'est au-dessus, tu vois, c'est un dieu pour moi, mais sur ce match-là, ah non, je lui pardonnerai jamais, jamais.
Marie-Martine.
Alors moi j'étais plus jeune et puis je regardais le foot très occasionnellement et je me souviendrai comme nous tous, on se souviendra toujours où on était et ce qui se passait ce jour-là. Donc lecture assez footique, je me rends pas du tout compte de toute la dramaturgie dont parle Simon. Et par contre Zinedine Zidane est un idole. En plus de ça, moi je suis issue d'une famille issue de l'immigration, des vagues d'immigration italienne, tu vois, donc le France-Italie a encore une autre saveur. Et je me souviendrai toute ma vie de feu mon père au moment de ces images-là qui me dit oh non. Et donc moi je comprends pas trop, écoute, il a dégoupillé parce qu'il a dû lui dire quelque chose de vraiment dégueulasse. Et il me dit ouais mais là c'est la finale de la Coupe du Monde, il y a la France, les gamins de la France entière sont devant la télé, ce mec là c'est l'idole de tout le monde, et là il a gâché le spectacle, il a tout gâché. Et moi j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais pas vraiment dans cette lecture, et quand j'y repense maintenant, je comprends tout à fait ce que mon père voulait dire, qu'il ne met pas plus que ça le foot, mais tu vois, de laisser cette empreinte là et d'avoir et que ça le suivra à vie, et ça le suit à vie. Pour tout, je lui ai pardonné. Moi, je pardonne toujours.
Ok, tu lui as pardonné. Ouais, et Cyril, ouais. Raconte-nous la coulisse, parce que je blaguais sur vous étiez à cette époque-là, évidemment, en introduction. Mais en 2007, tu animes encore en 2006, tu animes encore les spécialistes, l'émission de référence de Canal à l'époque sur le foot. Et je sais que Zidane fait une interview à Canal Plus avec Michel Denisot. Est-ce que tu te souviens du contexte de l'époque, parce qu'il fallait que la légende se fasse pardonner, qu'elle s'excuse, mais en même temps sans trop discuter, on était très à chaud à ce moment-là.
Alors d'abord, mon contexte personnel, j'étais à la finale à titre perso avec mon beau-frère, et le retour quand même c'est dur, hein, quand tu perds la finale à Berlin avec les Italiens dans le métro et tout, c'est dur, c'est des souvenirs, ça fait partie de la légende, hein. Je rentre à 7h du matin, enfin c'est très dur. À titre professionnel, oui, j'étais à Canal, j'étais journaliste, on animait des choses pendant la Coupe du Monde. Ouais, il y a un truc, une Michel Denisot qui était très fort pour ça, c'est qu'il négocie avec Zidane l'exclusivité mondiale du mea culpa, ou je ne sais pas si on peut appeler ça, il n'y a pas de mea culpa spécialement d'ailleurs ce jour-là, de
Zinedine, qui est une
explication, voilà, ouais. Et puis de fin de carrière avec et donc Canal fait un coup énorme, effectivement, trois jours après, ou trois, quatre jours après la finale, avec cette interview exclusive. Et après, Zidane, on l'a récupéré comme consultant, il a été, après, moi j'ai changé de fonction et je l'avais effectivement dans mon équipe de consultants avec Dugas.
Enfin, voilà, on arrive à parler de ça avec lui ou pas?
Ce sujet-là, non, moi je l'ai pas. Même quand j'étais entre guillemets son patron, entre guillemets, hein, c'est-à-dire on n'a pas.
Non, non. C'est pas quelque chose que l'on évoque avec Zidane.
Non, je non. Non.
Ok.
Mais il a jamais. Non. Il a expliqué le geste, mais il est jamais revenu dessus. Hein,
non. Je pense que pour lui c'est jamais.
Moi je me dis c'est vraiment l'ensemble du match. Après avoir fait un chef-d'œuvre face au Brésil et être encore meilleur face à l'Espagne, tu te dis tu peux pas faire ça comme ça.
Tu peux pas nous quitter comme ça.
Exactement. J'ai l'impression ce jour-là, il m'a lourdé, quoi.
Mais c'est Dugas qui dit la vérité. Il dit, mais Dugas, lui, il ne pardonnera jamais. Donc
ah, mais
Dugas,
la revanche.
Il est toujours,
ah,
non, mais Dugas, sûr. Il est toujours dans le sillage de Zidane. C'est-à-dire, ils sont toujours sur la même ligne. Ah, oui, il oui. a bien fait. C'est comme ça. C'était son choix. Comme tu l'as dit, c'était son choix personnel. Je ne pense pas qu'il se soit posé la question de. Et puis, je pense qu'en plus, il ne se dit pas forcément si j'étais resté 5 minutes de plus sur le terrain, est-ce que l'équipe de France aurait gagné? Est-ce que ça aurait vraiment changé? Il y a le coup de tête juste avant, sorti par Buffon, où là, je pensais la balle de match, et c'est lui qui a cassé. Et la parade, de, ça se joue là.
Ça aussi,
et...
c'est la légende.
Mais ouais, c'est là.
Florent nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat. Bonjour Florent.
Oui, bonjour.
Bonjour Florent. Bah, très bien, merci d'être avec nous. Alors, toi, tu as pardonné à qui ou à quoi?
Moi, j'ai pardonné à Zizou. Hein. Il nous a offert une Coupe du Monde en 98. C'est final, c'est des histoires de coups de boule finalement. j'ai pardonné à Materazzi aussi parce que je crois qu'on oublie quand même que c'est, il me semble, c'est lui qui égalise hein, sur corner. Non donc, ouais. Du coup, bon voilà, c'est un peu l'homme du match. Donc voilà, ça c'est pas voilà, il a fait disjoncter Zidane, ça va bien jouer pour lui. Ça sera jamais mon meilleur ami, mais bon voilà, il a bien joué. Par contre, moi j'ai pas pardonné aux arbitres hein, sur cette histoire parce que pour le coup ils sont allés faire de l'arbitrage vidéo sans avoir le droit de le faire. Donc c'est un peu comme si moi j'avais le truc sur mon téléphone et je disais à l'arbitre de toucher, mais moi je l'ai enregistré, regardez, il a mis un coup de boule, et que les mecs disent, ah regardez, c'est vrai, il a mis un coup de boule, paf, on sort Zidane. En théorie, ils n'auraient jamais dû avoir.
Mais qu'est-ce qui se serait passé si justement il n'avait pas
été. C'est fou qu'on en a aussi peu parlé.
Oui, au-delà de l'arbitre, je suis d'accord avec l'auditeur, mais le premier qui prend la décision de faire exclure Zidane, ce n'est pas l'arbitre, c'est le réalisateur du match. On oublie toujours ça. Si le réalisateur du match à qui on propose le ralenti ne remontre pas l'image, et moi, c'est ce que je conteste dans la VAR, c'est qu'on donne le foot, on met le foot à la merci de réalisateurs de football qui ont leur propre subjectivité, qui peuvent décider de caler un ralenti plutôt qu'un autre. Ça n'est pas logique.
Tu es obligé de montrer ça. Une finale de Coupe du Monde.
Non mais vous êtes sérieux? Mais c'est son choix quand même. C'est son choix quand même. Je dis pas qu'il a mal fait, mais c'est le premier choix qui est fait.
On est en finale de Coupe du Monde. Il y a un mec qui se retrouve couché. Il y avait Zidane à 2 mètres. Le mec, forcément, cette image va sortir quand t'es
réellement. Mais c'est pas la première fois qu'un coup a été donné dans le dos de l'arbitre. On n'a jamais utilisé avant
que l'arbitre revienne sur ça, mais qu'on montre pas l'image.
J'adore reparler ça parce que c'est fou. Mais réalisateur d'une finale de Coupe du Monde. T'as cette image-là. T'es ni pour les Français ni pour les Italiens. T'as une légende du foot qui met un tampon à un autre. Mais ouais, ça ne vient même pas à l'esprit de pas la montrer.
Oui, mais est-ce qu'il la montre si c'est France-Allemagne, que l'arbitre est allemand et que.
Ah bah, c'est ça.
Et que la scène concerne un joueur allemand.
Et l'arbitre n'avait pas le droit d'exclure Zidane sans avoir vu l'image.
S'il le montre pas, c'est le dernier match.
Imaginez une finale de Coupe du Monde avec Zidane qui permet à la France de la gagner alors qu'il a mis un coup de boule 10 minutes avant parce qu'il n'a pas été exclu. Ça aurait été fantastique. On en aurait encore parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, les GG, d'avoir été avec nous.
Merci, Zizou, quand même.
Merci, Florent, d'avoir été avec nous au 32-16. Marie, Cyril, Jérôme, Simon, à bientôt dans les grandes gueules du sport. Évidemment, on se retrouve. Samedi prochain à partir de 9h. Si vous avez manqué cette émission, elle était exceptionnelle, n'hésitez pas, précipitez-vous déjà sur le podcast. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC, notamment autour de Nantes-Marseille. Un grand merci à Alban Azaïs à la réalisation et à Maxime Abolin à la production. Je vous embrasse, on se retrouve dans quelques instants pour les paris.